France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Air France, le drapeau volant. Épisode 1, au loin dans le brouillard. Bon, autant vous le dire tout de suite, je prends l'avion. J'essaye de le prendre le moins possible, je me trouve tout un tas d'excuses quand je le fais, mais quand même, je prends l'avion. Ça n'est pas un motif de fierté, au contraire, je le vois plutôt comme le fruit d'une dissonance cognitive que nous sommes nombreuses à expérimenter. Heureusement pour la planète, je déteste les contrôles aux frontières et ces formalités me font à chaque fois hésiter à quitter le territoire de l'Union européenne. Et oui, j'ai toujours l'impression de passer un examen avec la vague inquiétude de le rater. D'ailleurs, une fois, je l'ai raté. J'arrive au guichet à 6h du matin, je fais la queue, je tends mon passeport. Et là se matérialise la raison de mon inquiétude qui est que je ne sais pas vraiment compléter correctement un formulaire. En l'occurrence, je m'étais trompé en remplissant une demande d'autorisation électronique de voyage. Au moment de recopier le numéro de mon passeport, j'avais pris un 0 pour un O, deux formes, vous l'avouerez, très subtilement différentes. Au moment précis où on m'a annoncé que je ne pouvais pas aller plus loin que le guichet, j'ai arrêté de voir l'aéroport comme une grande porte vers le ciel, comme une cathédrale de nos vies modernes et fluides, pour le considérer comme une vaste machine à trier, séparer, contrôler, dispatcher, vérifier et éventuellement vous renvoyer chez vous. On va voir d'ailleurs, au cours de cette série, que l'un des grands défis d'une compagnie comme Air France, c'est de vous faire oublier cette réalité du transport aérien. Un défi qui consiste à remplacer dans votre esprit des tonnes d'acier propulsées à grand renfort de fioul par l'image de rayons de soleil qui se diffractent dans des gouttelettes de condensation glissant doucement sur des hublots. Parfois d'ailleurs, ça marche. Bon, à la fin, j'ai quand même réussi à partir en remplissant en urgence une nouvelle demande d'autorisation avec le bon zéro, ou le bon O, je ne sais plus, au bon endroit, et aussi grâce à un coup de téléphone de l'hôtesse à une mystérieuse entité. C'était un dénouement quand même un peu miraculeux, étant donné qu'il avait fallu, à un moment donné, remplir une adresse en coréen, sur une appli en coréen, et tout ça sur un smartphone. Je vous passe le moment où il a fallu télécharger une photo. Une parenthèse au passage, les atmosphères d'aéroport sont pour moi des oxymores incarnés. Il y a des boutiques de luxe, mais il y a aussi des maîtres chiens. Il y a des jeux vidéo disponibles, mais il y a aussi des portiques de sécurité. Il y a des files qui avancent vite, mais il y a aussi des files qui n'avancent pas en fonction du prix de votre billet. Au final, si tout se passe bien, le moment de l'aéroport peut être assez agréable. Mais dès qu'un imprévu vient perturber le bruit apaisant des valises qui roulent sur la moquette, une autre réalité apparaît subitement. Les personnels de l'aéroport sont toujours là, souriants. Les magasins de luxe brillent toujours de la même façon. Et pourtant, vous êtes passé dans une autre réalité, comme Alice à travers le miroir. Et là, la suite ne vous appartient plus. Prendre l'avion a toujours été une expérience stressante. Dans les premiers temps, ce stress provenait du fait qu'on y risquait sa vie, tout simplement. Aujourd'hui, on ne risque quasiment plus de mourir, mais une inquiétude diffuse demeure, à cause de ces atmosphères d'aéroport, justement, qui sont pour moi l'expression d'une société du contrôle total, implacable et un peu effrayante, et aussi à cause des questions liées au changement climatique et au surtourisme. Dans le même temps, en ce qui concerne la France, l'aviation apporte des bienfaits. Avec l'industrie du luxe et des cosmétiques, l'aéronautique est en effet l'un des secteurs industriels qui exporte le plus. Air France reste également l'une des plus grandes compagnies mondiales. Et à chaque fois qu'Airbus vend un avion assemblé à Toulouse, cela aide un peu à financer notre modèle social. Mais aujourd'hui, ces motifs de fierté sont teintés de sentiments contradictoires qui laissent un certain goût d'insatisfaction. On aimerait poursuivre la promesse de la modernité triomphante, la démocratisation du voyage, la multiplication des échanges, l'ouverture au monde, sans avoir à souffrir des méfaits de la mondialisation, de l'utilisation intensive des ressources naturelles, bref, de l'envers de cette modernité. C'est pour réfléchir à ces sentiments mêlés que nous avons eu envie de raconter l'histoire de la compagnie Air France. Car Air France représente à la fois beaucoup des rêves et beaucoup des défis qui se posent à nous en ces temps orageux. Cette entreprise n'est en effet pas tout à fait comme les autres. Elle a été longtemps l'image de la France à l'étranger, jusqu'à entretenir des lignes déficitaires pour des raisons diplomatiques. Et elle est aujourd'hui toujours ce drapeau bleu-blanc-rouge qui flotte dans le ciel. Air France emporte aussi avec elle la mythologie de l'aéropostale dont elle est en partie issue, de même que les aventures de Mermoz, de Saint-Exupéry et de bon nombre d'aventuriers des airs. Mais Air France est aussi, on l'a dit, l'un des nombreux agents du réchauffement climatique et du surtourisme, ainsi que le symbole d'une mondialisation pas forcément heureuse pour tout le monde. Au fond, depuis le début de son existence, elle est le symbole de ce rêve qui nous tiraille, celui des super-pouvoirs que nous donne la technologie et des conséquences de ces super-pouvoirs.
Air France, le drapeau volant.
Welcome aboard, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We have now reached the cruising altitude.
Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire.
Attachez votre ceinture et vous abstenir de fumer jusqu'à l'extinction des combustibles.
Attaché de production, Lily Cornaer.
Étienne Rachoux, vous êtes président de l'association Musée Air France, après une longue carrière au sein de la compagnie, carrière au cours de laquelle vous avez été notamment directeur général Europe et Afrique du Nord d'Air France, puis directeur des alliances et partenariats. Première question, est-ce que vous aimez prendre l'avion et est-ce que vous prenez l'avion sans les difficultés dont je viens de parler ?
Eh bien écoutez, oui, j'ai beaucoup pris l'avion, pour des raisons professionnelles évidentes. Je continue à le prendre. Mais je partage un peu votre sentiment d'ambivalence, hein, entre d'un côté des parcours qui sont quelquefois compliqués, soumis à énormément de contrôle, la question évidemment du dérèglement climatique, hein, qui plane au-dessus, entre autres, de l'industrie du transport aérien. Mais en même temps, comme je suis un passionné depuis toujours, ce qui l'emporte toujours, c'est la magie du vol.
La Première Guerre mondiale est l'un des jalons de notre basculement dans un monde saturé de technologies. En 1914, les armées françaises et allemandes entrent sur le champ de bataille à cheval et ils en ressortent 4 ans plus tard à l'intérieur de chars d'assaut. C'est également durant cette guerre que l'aviation fait un bond technologique énorme. En France, 50 000 avions sont construits en 4 ans. Après la guerre, le développement qu'a connu l'industrie aéronautique permet d'envisager de transporter du courrier et même bientôt des passagers. De nombreuses compagnies se développent, elles s'appellent l'Aéropostale, Air Orient, SGTA Farman, Air Union, Sidna. Ensemble, elles vont former Air France, nous allons le voir. C'est alors l'époque des pionniers, comme le commandant Louis Fulachier, dont voici le témoignage issu d'une archive de janvier 1963.
Dernièrement, le commandant Louis Fulachier de la compagnie Air France s'est vu décerner l'insigne rarissime des 25 000 heures de vol. Nous avons rencontré le commandant Fulachier avec le micro du magazine de l'aviation, bien entendu.
Commandant, qu'est-ce que ça représente pour vous, 27 000 heures et quelques de vol ?
Ça représente 27 000 heures et quelques de joie.
Vous avez débuté dans l'aviation en quelle année ?
J'ai été breveté le 15 avril 1925. Dans l'aviation militaire. Et je suis entré dans l'aviation civile le 15 avril 1932.
Et vous êtes rentré à Air France en quelle année ?
En 15 avril 1932.
Vous êtes rentré directement à Air France ?
Non, c'était à ce moment-là la compagnie Air Orient.
Et qu'est-ce que vous assuriez comme liaison ?
Damas-Saigon. Parce que la compagnie Air Orient avait un tronçon exploité par Hydravion entre Marseille et Beyrouth. Et ensuite, par avion terrestre, entre Beyrouth, Karachi et Saïgon.
Combien de temps vous mettiez à l'époque pour faire ces trajets ?
Difficile à vous le dire, mais pour aller de Damas à Saïgon, nous mettions au moins 60 heures. 60 heures, oui.
Étienne Rachoux, avant la création d'Air France, il y avait donc une myriade de petites compagnies aériennes. Comment expliquer qu'il y en avait autant ?
C'est effectivement le bond technique et technologique, puisque en 10 ans, entre 1910 et 1920, on est passé du sport aérien au transport aérien, en passant par le combat aérien. Donc il y a eu trois périodes fondatrices de l'aviation en l'espace de 10 ans, ce qui est tout à fait incroyable, un développement ultra rapide. Et dès la fin du premier conflit mondial, les premières compagnies sont apparues. Dès 1919, vous en avez cité un certain nombre, la première liaison régulière internationale, c'est en août 1919 entre Londres et Paris.
Et c'est même la ligne qui va longtemps être la plus importante.
Et je dirais que jusqu'à l'arrivée d'Eurostar, ça a été la ligne moyen courrier, court courrier, la plus importante du réseau Air France. Et donc, peu à peu, ces compagnies se sont constituées, se sont développées. En 1921, on en trouvait neuf compagnies qui était équipé d'un total de 290 avions, ce qui est quand même considérable, et qui employait 90 pilotes.
Donc des tout petits avions, on imagine ?
Des petits avions qui, pour l'essentiel, étaient des avions qui dataient de la Première Guerre mondiale, qui avaient été bricolés, convertis, plus ou moins bien, pour transporter du courrier, première vocation de l'aérien après la Première Guerre mondiale, et puis aussi des passagers. Ce qui est intéressant, c'est que 10 ans après, 1931-32, il n'y en a plus que 5 compagnies au lieu de 9. Et elles mettent en œuvre à peu près le même nombre d'avions. Donc il y a déjà eu un premier phénomène de concentration avant même la création d'Air France.
Alors il y a des pays comme les Pays-Bas par exemple, ou l'Allemagne, où il y a une seule compagnie dès le départ, donc KLM pour les Pays-Bas, Lufthansa pour l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'en France, il y en a comme ça autant de petites ?
Probablement parce que l'esprit d'entreprise en France a été plus riche, et puis aussi parce que cette activité était subventionnée. Très largement subventionnée
par
l'État. Donc elle a attiré des créateurs d'entreprises qui étaient aussi à la fois attirés par le défi technique, mais aussi par les subventions qu'il y avait derrière.
Alors, Louis Fulachier, qu'on entendait dans l'archive précédente, est-ce que c'est un nom déjà qui est connu, ou est-ce que c'était simplement un commandant parmi d'autres ? Est-ce que c'est un nom que vous connaissez ?
Bien sûr, c'est un des grands noms d'Air France, puisqu'il a commencé sur des avions en bois étoile, et qu'il est terminé aux commandes d'un Boeing. 27 000 heures de vol, c'est considérable, c'est beaucoup. C'est une grande carrière aéronautique, d'autant plus que il les a passés sur probablement une douzaine ou une quinzaine d'avions différents. Donc il a connu toutes les générations de l'aviation, entre la fin de la Première Guerre mondiale ou juste après, et le début des années 60, l'arrivée de la réaction. Et donc évidemment, c'est un personnage emblématique de ses carrières de pilote.
Voyez ces merveilleux, tous nos as glorieux franchir l'espace, ayant le regard clair, rapide comme l'éclair, ce sont nos gars de l'air remplis d'audace.
Durant l'entre-deux-guerres, on ne pense pas que l'avion va servir à transporter massivement des passagers. Le fondateur de l'aéropostale, Marcel Bouillon-Lafont, avait même déclaré « L'aviation semble une industrie pleine de promesses, dont le poids se fera de plus en plus sentir, mais elle n'arrivera pas à exercer une influence aussi grande que les chemins de fer ou l'automobile. » Il faut dire que dans ces années-là, cette industrie ressemble beaucoup à une aventure qui n'est pas vraiment de tout repos.
Je vois que vous avez deux doigts qui vous manquent. C'est un mauvais souvenir d'aviation aussi ?
Non, ce n'est pas un mauvais souvenir. C'est un souvenir, tout simplement.
Vous pouvez nous le raconter.
Ça m'est arrivé le 5 mai 1932, dans le golfe Persique. Je volais sur un Farman 303 et sur ces avions-là, l'hélice latérale gauche, parce qu'il y en avait une à gauche mais une à droite aussi, passé à 17 cm en avant du pare-brise et à 7 cm à l'extérieur du pare-brise. Or, comme le moteur central nous salissait nos pare-brises tout le temps, il fallait bien l'essuyer. Alors on avait l'habitude, on passait la main, on essuyait le pare-brise, et puis un jour, la main est partie dans l'hélice. Et puis quand je l'ai ramené, il y avait deux doigts de moins.
Étienne Rachoux, qu'est-ce qu'elle nous raconte, selon vous, cette archive-là ?
En fait, elle nous raconte cette époque de l'entre-deux-guerres, qui était encore une époque des pionniers de l'aviation, même si on était rentré dans le transport aérien régulier de passagers et de courriers. Et cette aviation était soumise à d'innombrables aléas d'exploitation. Le risque d'accident et de panne était permanent, les avions étaient encore fragiles, les moteurs étaient plus ou moins au point. Fulachier vient de nous en donner un exemple. Et donc, le risque d'accident n'était jamais très loin. En 1923, c'est la création du bureau Veritas qui va suivre les statistiques d'accidents. Et cette année-là, pour la première fois, on recense les accidents aéronautiques en France. Et il y en a 100 ce qui est quand même assez considérable. 5 seront mortels, parce que les avions, ces avions qui volaient relativement lentement...
C'est-à-dire à 150
km/h. Oui, 150-200 km/h, à faible altitude. Hein, on était au mieux à 1000, 2000, 2000 mètres. Et d'ailleurs, intéressant, les passagers étaient équipés de petits livrets qui étaient de véritables cartes routières. Donc ils pouvaient suivre le vol comme on suit une carte routière, entre, par exemple entre Paris et Londres. Tellement l'avion volait à basse altitude, et donc de temps en temps, il tombait dans un champ de betteraves.
Il dit là, Fulachier dans l'archive, au fond c'est pas un mauvais souvenir. Bon, il s'est fait arracher deux doigts quand même par l'hélice, mais c'est pas un mauvais souvenir. Est-ce que c'est bravache? Est-ce que c'est l'état d'esprit un petit peu des gens qui volaient à cette époque? Ou est-ce que vous pensez qu'il le considère vraiment comme pas un mauvais souvenir?
Non, je crois qu'en fait surtout le rapport au danger n'avait rien à voir avec celui qu'on peut avoir aujourd'hui, en particulier quand on est passager aérien. Je pense que les gens à cette époque, d'une façon générale, acceptaient une forme de risque dans leur déplacement, en particulier sur un moyen aussi moderne et innovant que l'avion à l'époque. Et d'ailleurs, le tribut qui a été payé par ces pionniers a été lourd. Fulachier y a échappé, mais simplement pour vous donner un exemple, sur la fameuse ligne Mermoz, la conquête de l'Atlantique Sud entre 1930, premier vol de Mermoz sur l'Atlantique Sud, et 1940, donc les 10 premières années de la conquête de l'Atlantique Sud, sur les 88 pilotes radio navigateurs de l'époque, y compris Mermoz, qui ont traversé de l'Atlantique, français, les traversiers français de l'Atlantique, 20% ont disparu.
J'ai lu qu'aujourd'hui, pour retrouver un petit peu quelque chose d'aussi dangereux, d'aussi similaire, il faut faire un voyage sur la Lune. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
Oui, je pense que la comparaison est très intéressante. Je pense que l'exploration spatiale d'aujourd'hui, par certains côtés, ressemble sans doute beaucoup à cette exploration aérienne de l'entre-deux-guerres.
Toujours dans l'entre-deux-guerres, les Français ne sont pas les plus prompts à monter dans des avions. Sur la fameuse ligne Paris-Londres, on rencontre surtout des Anglais. Mais le nombre total de passagers sur ce trajet augmente rapidement. Il passe de 942 en 1920 à 52 000 13 années plus tard. Quoi qu'il en soit, l'objet essentiel de l'aviation est alors, encore et toujours, de transporter du courrier, et ce sera le cas jusqu'en 1945. Dans la salle des archives, il existe un enregistrement de la voix de Didier Dora. Ce pilote, considéré comme exceptionnel, y évoque l'importance de l'aviation dans le développement de la poste.
L'aviation est un virus pour ceux qui l'ont pratiqué, surtout à l'époque héroïque des débuts. Chaque nuit, au Bourget, on voit d'anciens pilotes qui viennent, qui regardent les avions éclairés par les projecteurs, qui regardent le chargement du courrier, qui regardent tourner les moteurs. Et un soir, au Bourget, Henri Vincent a rencontré l'un des pionniers de l'aéropostale, Didier Dora.
Monsieur Dora, c'est l'avion de Bordeaux qui va décoller dans quelques instants.
Oui.
Nous parlions de vous tout à l'heure avec le commandant Vanier.
Ah oui, oui.
Vous avez présidé la naissance de cette ligne, la postale de nuit.
Oui.
C'était en 1939. Nous entendrons mal d'ailleurs, car il y a le bruit des moteurs de cet avion qui est un peu plus moderne que le Goéland de l'époque.
Oui, il est un peu plus... Il a un volume plus important aussi. Volume de son, volume de soute.
J'ai eu l'occasion...
Car ce qui se dégage de cette histoire, c'est qu'en 1939, c'est-à-dire au moment de la naissance du vol de nuit régulier, dans le climat continental, nous portions au maximum 600 kilos de lettres par nuit, et qu'aujourd'hui, vous avez pu assister à l'embarquement de 50 tonnes de courrier. C'est-à-dire que l'aviation postale métropolitaine est devenue un instrument d'accélération du rythme de l'économie nationale.
J'entends la voix d'un personnage dont je suis très heureux d'ailleurs que l'on puisse parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que la légende du transport aérien français est un peu écrasée par la figure héroïque d'un Jean Mermoz ou d'un Antoine de Saint-Exupéry, et qu'on ne parle pas assez des autres. Les autres, c'est
un peu les soutiers aussi,
en particulier,
quand même,
plus que les soutiers. Didier Dora, et puis son fameux adjoint Raymond Vanier, dont le nom a été cité tout à l'heure par Didier Dora. Pourquoi ? Parce que derrière ces pilotes téméraires, voire inconscients, il y avait des grands organisateurs, des gens qui étaient en mesure de justement de mettre en œuvre ces défis. Et Didier Dora, qui était le patron de l'exploitation de l'aéropostale basé à Toulouse, avant sa vie de patron de l'exploitation postale, il a commencé chez l'aéropostale et c'est lui qui a mis en place en particulier les lignes de l'aéropostale qui ont traversé à la fois le continent américain du Sud et puis l'Atlantique.
Alors il a dirigé d'une main de fer les lignes aériennes Latécoère qui deviennent ensuite l'aéropostale puis
absolument.
Qui se fondent dans Air France et on dit qu'il était l'âme de l'aéropostale.
Alors il était l'âme en ce sens qu'en tant que patron de l'exploitation, c'est lui vraiment qui dirigeait au quotidien l'entreprise avec un caractère et un tempérament extraordinaire. Si je puis citer ce qu'en disait Joseph Kessel dans un livre qu'il a consacré à Jean Mermoz, il en fait la description suivante. De ce bloc massif et bref, taciturne, gris, aux yeux clairs et fixes, se dégageait un caractère exceptionnel de force, de ténacité, d'assurance dans ses droits et ses devoirs.
Une autre archive de Didier Dora, affrontant les intempéries.
Le premier contact que j'ai éprouvé avec un orage violent qui m'a détruit complètement l'hélice, qui a rongé l'hélice qui était à l'époque était en bois, et mon avion ne tenait plus en l'air, et j'ai dû, après une longue, enfin qui m'a paru longue en tout cas, traverser depuis les îles Colombrettes où j'avais été emporté par la tempête jusqu'aux environs de Valence où mon avion s'est échoué parce que l'hélice était rongée et ne tirait plus la machine.
Dora n'était pas un tendre. Il avait été blessé à Verdun et il n'hésitait pas à mettre à la porte ceux qui montraient le moindre signe de faiblesse ou qui n'adhéraient pas à l'esprit du courrier. C'est aussi ça, Étienne Rachou, les débuts de l'aviation, c'est une certaine dureté, une dureté presque militaire.
Alors c'est effectivement une dureté parce que les conditions, encore une fois, d'exploitation sont très dures, donc cette conquête de l'espace aérien, cette conquête des lignes aériennes est réservée aux caractères les plus forts. Et vous parlez de discipline militaire, ça n'est pas étonnant parce que Dora, comme les autres, sont pour l'essentiel des anciens pilotes militaires venus dans les années 20 à la vie civile.
Alors c'est l'inspiration pour le personnage principal de Vol de nuit de Saint-Exupéry, Didier Dora. Et la preuve de ce dévouement qu'il avait pour l'aviation, il a demandé à être enterré à l'aérodrome de Toulouse-Montaudran. Et sa tombe y est restée pendant 35 ans avant d'être déménagée parce qu'il y a eu un quartier qui a été construit à cet endroit-là. En janvier 1933, Édouard Daladier est président du Conseil. Il crée le premier ministère de l'air, dont il confie la tête à un jeune avocat, Pierre Cotte. Voici sa voix en archive. Nous sommes le 29 janvier 1936 et il parle d'instaurer une police aérienne internationale pour se prémunir du dangereux voisin nazi.
Je dis défense, mes chers amis, car personne en France ne songe à chercher querelle à qui que ce soit. Et encore moins à prendre, sous un prétexte quelconque, l'initiative d'une agression. Nous sommes passionnément attachés à la paix. Nous ne troublerons jamais la paix d'autrui. Mais nous ne voulons pas que l'insuffisance de nos moyens de défense et de notre force de résistance à l'agression puisse donner un jour ou l'autre à un moins pacifique que nous l'intention de forcer violemment notre porte et d'envahir notre territoire.
Pierre Cotte était un passionné d'aviation. Il avait même passé son brevet de pilote à son arrivée au ministère de l'Air. Avec une grande rapidité, il va fusionner sous la houlette de l'État les cinq plus importantes compagnies de l'époque, ce qui acte la création d'Air France le 30 août 1933. Il faut dire que, malgré d'importantes subventions publiques, ces premières compagnies aériennes étaient difficilement rentables. L'emblème de la nouvelle compagnie est reprise de celui d'Air Orient. Une tête de Pégase, symbole de la mythologie grecque, mais avec une queue de dragon d'Aname pour symboliser la relation avec l'Extrême-Orient. Un peu plus tard, on verra apparaître un hippocampe ailé, comme le racontait en 1984 Solange Catry, une ancienne hôtesse de l'air.
Eh bien, l'hippocampe, quand je suis entrée à Air France, c'était l'emblème. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi un hippocampe?
Bah oui, parce que ça n'a rien d'aérien.
Oui, non, rien du tout. Seulement, celui d'Air France a des ailes, ce qui est tout à fait anormal. Mais il faut vous expliquer l'origine. Maurice Noguès, vous savez, le pilote qui a défriché la ligne d'Extrême-Orient. Maurice Noguès est tombé un jour en panne avec son hydravion au large de Capri. Son hydravion flottait. Et il flottait dans une mer d'hippocampes. Il s'est dit, tiens, on est à la recherche d'un emblème. Eh bien, pourquoi pas l'hippocampe? Il faudrait simplement lui mettre des ailes, puisque l'hippocampe vit dans l'eau, comme les hydravions. Mais les hydravions, ça vole dans l'air. Alors, on va mettre des ailes à l'hippocampe. Et cet hippocampe ailé a été, pendant au moins tout le temps où j'ai volé à Air France, l'emblème.
Étienne Rachoux, quelle a été l'importance de Pierre Cotte dans les débuts de la compagnie Air France?
Alors, Pierre Cotte, qu'il ne faut pas confondre avec Pierre Donatien Cotte, qui a été un directeur général d'Air France dans les années 60, mais Pierre Cotte a été un ministre de l'air extrêmement important pour Air France, parce que c'est lui qui, sous l'impulsion d'Edouard Daladier, a effectivement poussé à la création d'Air France. L'État était un peu las de disperser des subventions à cinq compagnies, et donc a décidé de regrouper tout ça sous la houlette donc d'un service central de l'exploitation de lignes aériennes, qui est devenu Air France à la fin du mois d'août 1933. Et donc il a eu ce rôle de fédérateur, et c'est lui qui a poussé les dirigeants de ces compagnies aériennes à se réunir, à se rassembler.
Parce qu'on a tendance à oublier un petit peu cette histoire, mais c'est comme pour le train. Il y avait de multiples compagnies de train et elles ont été fusionnées dans la SNCF. Aujourd'hui, ça nous paraît évident d'avoir Air France d'un côté et la SNCF de l'autre, mais en réalité, ça c'était pas comme ça au départ.
Absolument, il y avait cinq compagnies principales. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'action de Pierre Cotte ne s'est pas arrêtée Air France, parce qu'il a pris deux autres décisions extrêmement importantes dans l'histoire de l'aéronautique française qu'on peut juste mentionner. La création de l'armée de l'air, quand même.
Et la création. Parce qu'il n'y avait pas d'avion avant.
La création de l'aviation populaire, qui a permis à des générations de jeunes qui n'avaient pas les moyens de découvrir l'aérien, bien de le découvrir, et qui a formé des générations de pilotes.
Air Orient était la compagnie la plus prospère de toutes celles ayant fusionné. Elle sert donc de base à la nouvelle Air France. Ses lignes Paris-Hanoï et Paris-Saïgon sont les plus longues du réseau.
Où l'on vient quelques jours et l'on reste toujours.
Bien, monsieur Trey, je veux tout d'abord vous dire que je suis très content de vous voir à Paris dans un studio de la radiodiffusion française après vous avoir interviewé dans les jardins de l'hôtel Pacifique à Nouméa. Je crois que vous avez pu assister aux différentes tentatives qui ont été faites il y a bientôt 20 ans sur la ligne de Paris-Saïgon.
Eh bien, j'ai suivi, je peux dire, de bout en bout, cette ligne, puisque j'ai commencé à Paris et à Marignane, dont j'étais le chef de centre, en 1929, et que je reviens actuellement de Tahiti, où l'avion d'Air France va sans doute toucher d'ici un mois.
En fait, vous avez travaillé sur la continuation de cette ligne.
J'ai progressé de Marignane jusqu'à Tahiti.
Et la ligne de Tahiti ne sera que la continuation de la ligne d'Extrême-Orient.
C'est ça.
Est-ce que vous pourriez nous parler des essais qui ont été faits il y a 20 ans sur Paris-Saïgon?
Cette ligne d'Extrême-Orient a été étudiée par différentes compagnies. La première, Air Union Ligne d'Orient, a amorcé des études du côté de la France, tandis qu'une autre qui s'était créée en Extrême-Orient, Saïgon, RASI, amorçait des études à l'autre extrémité.
Mais est-ce que c'était des études purement théoriques ou pratiques? Est-ce qu'il y avait des vols d'essais?
Il y a eu des vols d'essais, de fait, principalement sur le parcours de Méditerranée entre Marseille et Beyrouth.
À quoi ça ressemblait, Étienne Rachoux, ces débuts d'Air France, pour qu'on se fasse un peu une idée sur la fréquence des vols, le nombre d'avions, les destinations les plus importantes?
Quand Air France est créée, le 30 août 1933, elle se retrouve à la tête d'un parc aéronautique de 259 avions.
Ce qui est beaucoup.
Ce qui est beaucoup. Par comparaison aujourd'hui, à la fin décembre 2025, dans la flotte d'Air France, il y a 268 appareils. Donc on est à peu près...
Ils sont beaucoup plus gros, évidemment.
Proportions, ils sont beaucoup plus gros. Mais surtout, à l'époque, il y a 259 avions de 23 modèles différents. Aujourd'hui, 268 avions de 10 modèles différents. Donc, il y a évidemment une rationalisation qui a été immédiatement entamée par Air France, d'autant plus que parmi ces 259 appareils, il y en avait beaucoup qui étaient juste bons à mettre à la ferraille, ou plutôt, comme c'était du bois et de la toile, sur le bûcher.
Alors, il y avait le réseau colonial, on l'entend dans l'archive, qui était évidemment très important pour la compagnie.
Tout à fait. Le réseau impérial, le réseau colonial, hein, dans l'entre-deux-guerres, c'était Marseille-Saïgon, on vient d'en parler, avec la compagnie Air Orient, une semaine. Une semaine, l'hydravion entre Marseille et Beyrouth, une voiture entre Beyrouth et Damas, et puis un avion terrestre qui vous emmenait sur Saïgon.
Mais avant l'avion, c'était un mois, c'était deux mois pour faire les mêmes trajets.
Oui, deux mois, plus de deux mois même. Donc l'avion a amené évidemment un raccourcissement du temps de trajet absolument phénoménal.
Alors que les bruits de bottes se font entendre à travers l'Europe, Pierre Cotte fait partie de ceux qui clament que l'aviation va rapprocher les peuples et leur éviter la guerre. Cette prédiction va malheureusement s'avérer fausse et la Seconde Guerre mondiale constitue un grand danger pour la jeune compagnie Air France qui manque de ne pas y survivre. C'est ce que nous allons voir tout de suite.